Cette démarche grotesque, organisée par une France militairement défaite, qui, remise à l'art américaine, fait désormais partie du projet démocrate en Afrique de l'Ouest, lequel projet consiste à faire en sorte que la violence terroriste s'éternise au Sahel et qu'elle va à la fois dans deux directions, le Maghreb et la côte, aurait dû nous avertir. Quelques cinquantaines de jeunes Maliens vêtus en t-shirt blanc d'une ONG française s'étaient rassemblés pour réclamer la libération du dit otage Olivier Dubois, enlevé d'Ixie Terefi à Gao par un groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Évidemment, personne ne demande pourquoi la libération de M. Dubois, lui-même africain d'origine mais marié à une blanche, et on se demande pourquoi d'autres otages, eux maliens, n'ont pas droit à ce genre de manifestation. Mais la réponse est claire. La France, atlantiste, dont la mission revue et corrigée consiste à exporter désormais vers la côte et le Maghreb le terrorisme qu'elle a elle-même créé avec l'aide des services secrets occidentaux et qu'elle entretient désormais très difficilement, puisque les Maliens ont réussi, au bout de 8 ans de résistance, à neutraliser ce projet en déclenchant un processus de réconciliation nationale qui marche, eh bien cette France a décidé aussi à s'exercer au kidnapping. Après avoir renoué avec la méthode de putsch militaire, elle appliquait 2 fois au Mali et 1 fois au Tchad, mais aussi tentait de le faire, hélas sans succès, au Burkina et au Niger. Voici la puissance colonialiste et d'été qui se met alors de s'en prendre directement à la présence des pays rivaux au Sahel, évidemment la Chine, et ses investissements passent en premier, d'où cette information qui vient de tomber sur RFI avec ce titre particulièrement choc. Mali, des entreprises de construction prises pour cible par les djihadistes. Là, comme il le disait il y a peu, l'imam Diko, c'est la France qui, bien que détestée par les Maliens, est sur le point d'imposer ses décisions à l'État malien, de décider avec qui il devra avoir des liens commerciaux et avec qui il ne devra pas. Dans son entretien du 11 juin, l'imam qui s'en prenait directement à une force d'occupation, qui se croit toujours le pouvoir tutélaire et partant autorisé à décider en lieu et place des Maliens. Je ne vois pas ce que la France a à refuser ou à accepter dans cette situation. Ce n'est pas à la France que l'on demande de discuter avec qui que ce soit, c'est au Mali, qui est un pays souverain. Voilà 8 ans que les forces françaises sont au Mali. Pourtant, l'étau continue de se resserrer autour de nous parce que le Mali n'a pas réussi à adopter une politique conséquente. Nous avons laissé ce conflit devenir celui des Occidentaux face aux groupes armés, alors que ce sont les Maliens qui en subissent les conséquences. Il faut savoir faire preuve de tolérance et d'humilité. Quand un pays souverain est assisté militairement par un pays ami, cela ne justifie pas que ce dernier doive lui imposer ses dictats. Le ton de la France, souvent, ne plaît pas aux Maliens, lit-on dans le dernier entretien de l'imam Diko. Mais outre les Chinois, ces fameux djihadismes que la France entraîne et forme désormais non seulement dans sa base à Gourma, plus au sud, mais encore au Niger, où une première base des forces spéciales françaises et otaniennes vient de voir le jour. Il y a aussi des ressortissants de 3 autres pays dont la nationalité importe à la force d'occupation. Outre les Maliens, il y a des employés mauritaniens et béninois qui ont été kidnappés. À quoi rime ce constat ? Au fait, si Barkhane a été poussée vers la porte du nord du Mali, si elle n'a pas réussi à en provoquer la scission, en dépit de plus de 8 ans d'efforts de guerre, de terrorisme et de complot, c'est en grande partie pour cause des Maghrébins si proches des Touaregs. Et puis le Bénin de Patrice Talon continue à défier les puissances occidentales, aussi bien avec ses prises de décisions politiques que sécuritaires. Il se rapproche de l'Algérie et de la Mauritanie pour former un bloc sahélo-maghrébin contre l'invasion occidentale et la France, à titre de bras exécutant d'un empire occidental qui s'ébat pour éviter le naufrage. Reste à savoir si des collectifs blancs feront, dans la semaine ou à mois à venir, des rassemblements pour demander la libération de ces otages, ou si, puisqu'il s'agit d'Africains et d'Asiatiques, les médias occidentaux s'en fichent. Un point positif toutefois, dans le temps, la France et si faisaient enlever leurs propres ressortissants, méthode courante qui leur permettait d'étendre leur présence dans des zones interdites ou difficiles d'accès. Désormais, c'est aux ressortissants des pays rivaux qu'ils s'attaquent. Pourquoi ? Eh bien tout bonnement, parce que ces zones-là sont désormais effectivement interdites d'accès aux forces d'occupation, et interdites veut dire que la population en est prête à découdre avec pour les mettre à la porte. Les groupes djihadistes ont l'ambition d'étendre leur influence au-delà des pays sahéliens et de s'implanter dans le nord des pays côtiers, la Côte d'Ivoire et dans le Viseur, mais aussi le Ghana, le Togo et le Bénin, où ils peuvent jouer sur le sentiment d'injustice partagée par de nombreux peuples pour recruter des combattants. C'est ce qu'on lit dans l'article du 16 juillet du Monde Afrique. Le scénario de la déstabilisation de la côte, on le voyait venir, depuis l'enlisement embarrassant de la force d'occupation dans le nord du Mali et le retrait inévitable de cette région, il fallait bien trouver un nouveau territoire pour s'y implanter et de poursuivre les plans de démembrement et de déstabilisation, ou mieux donc que la côte, cette région stratégique qui a tenté tant bien que mal à résister face à toutes sortes d'ingérences. Abidjan est en alerte, ce qui, il y a un an encore, constituait une menace possible, est devenu aujourd'hui une évidence. Les djihadistes sahéliens ont un projet dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ces trois derniers mois, quatre attaques ont été menées contre des positions des forces de sécurité le long de la frontière avec le Burkina, dans les environs de Kafolo, poursuit l'article de Monde Afrique. Au fait, cela fait à peu près 6 mois que les services secrets occidentaux ont déclaré la guerre à la côte, l'ont menacé d'une extension du terrorisme depuis le Sahel, mais que malgré plusieurs tentatives, ils n'y sont presque pas arrivés. De plus, les tentatives d'Alassane Ouattara de calmer la situation interne et de procéder à des dialogues de réconciliation n'ont pas plu à cette force néocolonialiste qui voit dans n'importe quel désaccord intérieur un moyen de déclenchement d'une grande crise. Au Ghana, autre pays visé par cette vague terroriste dont en parlent les médias mainstream, avec les tentatives ratées de déstabilisation du pays avec le levier de pression des séparatistes du Togoland, il est évident que la carte du terrorisme est maintenant envisagée. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin et même le Togo, grâce à leur peuple, ont déjà étouffé les révoltes qui se mettaient en place contre leur pays. L'Union des pays de la côte du Golfe de Guinée pourra, sans aucun doute, repousser ses mercenaires, mais également la présence militaire occidentale qui couvre les mercenaires terroristes. Décidément, ce n'est pas seulement les pays du Sahel qui se trouvent dans le viseur du projet démocrate de l'Afrique, mais ce projet semble s'étendre jusqu'au sud de l'Afrique où, l'axe colonialiste mis sur le pillage des ressources et richesses de ces pays, l'un des principaux pays cibles est le Mozambique. Il est vrai que le président mozambicain a gardé sa position sans succomber aux pressions de la communauté internationale qui l'oblige à demander une aide militaire de l'Occident. Il a choisi de régler ce dossier sécuritaire au niveau national et même régional. Depuis quelques semaines, les deux pays ont à maintes reprises souligné la nécessité d'une coopération bilatérale pour la résolution de plusieurs projets politiques et économiques. La semaine dernière, la Communauté de développement de l'Afrique australe a approuvé une nouvelle expédition de troupes au Mozambique, notamment dans la province de Cabo Delgado, théâtre depuis octobre 2017 d'une offensive terroriste de Daesh. Mais cette fois encore, l'axe occidental n'a pas pu digérer qu'une solution interafricaine soit appliquée pour résoudre les déstabilisations au Mozambique déclenchées par ce même axe. Le Rwanda, allié indéniable de l'axe occident, a profité des troubles qui secouent l'Afrique du Sud en ce moment, des troubles qui ont sûrement un lien avec ce même axe, et a doublé les SADC et a donc envoyé ses troupes au Mozambique. Cette présence irrite donc Johannesburg, d'autant plus que Kigali ne fait pas partie des pays de l'Afrique australe. Des soldats rwandais sont notamment déployés pour sécuriser les sites clés de gaz naturel liquéfié, dans le but, selon les analystes, d'attirer à nouveau les investisseurs effrayés par des attaques meurtrières, comme celle très médiatisée en mars à Palma, lit-on sur RFI. Mais Maputo a tout mis en œuvre pour éviter une invasion militaire occidentale sur ces terres. C'est pour cela d'ailleurs qu'il n'a jamais permis à un pays tiers d'intervenir dans son pays sous prétexte d'aide militaire, sauf quelques exceptions dont la Russie et plus récemment les pays de l'Afrique australe en qui il avait confiance. Rwanda, élève des Occidentaux et connaissant bien ses leçons, a donc profité de cette situation et s'est infiltré au Mozambique. Le but de ce plan est clair, empêcher d'autres puissances de vouloir s'implanter au Mozambique en plaçant le couteau du terrorisme sous la gorge de Maputo. Quoi qu'il en soit, Maputo ne semble pas laisser l'axe occidental prendre le monopole de son pays. Les alliances intra-africaines priment pour le gouvernement et la population mozambicaine qui se retrouve impliquée dans des planifications néocolonialistes. Le Kenya fixe à février 2022 la livraison de l'autoroute de Nairobi, financée et construite par la Chine. Se déplacer aux heures de pointe à Nairobi est un véritable calvaire. Selon la Banque mondiale, les habitants de la capitale kényane passent près d'une heure dans les embouteillages pour se rendre au travail. Pour les autorités, il y a urgence à densifier le réseau routier dans cette mégapole de près de 5 millions d'habitants. La livraison de l'autoroute de Nairobi pourrait donc se faire plutôt en février 2022 au lieu de septembre initialement prévu. C'est une information qui émane du ministre des Transports et des Infrastructures du Kenya, James Macharia. Le projet, dont les travaux ont débuté en juin 2020, concerne la construction d'une autoroute surélevée par endroits, composée de 10 échangeurs et de voies de desserte sur un linéaire total de 27,1 km. L'infrastructure, qui facilitera le déplacement entre Nairobi et Mombasa, va relier l'aéroport international Jomo Kenyatta au quartier de Rironi, dans le comté de Kiambu, le long de la route Nairobi-Limuru, à l'ouest de la capitale. Charles Blé Goudé, ex-ministre de la Jeunesse, su président Laurent Gbagbo et ancien chef de file des Jeunes Patriotes, pourrait très prochainement regagner la Côte d'Ivoire après une dizaine d'années passées loin des frontières ivoiriennes. Charles Blé Goudé s'est fait en relais ce vendredi 16 juillet 2021 pour l'obtention d'un passeport ordinaire. Blé Goudé bientôt en Côte d'Ivoire, l'ancien prisonnier de la Cour pénale internationale, s'est fait en relais ce vendredi 16 juillet pour l'obtention d'un passeport ordinaire. Après son acquittement définitif fin mars, le président du COGEP avait effectué plusieurs demandes de passeport mais qui étaient jusque-là restées sans suite. Désormais, c'est chose faite. L'ex-co-détenu de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale a été reçu dans les locaux du consulat de Côte d'Ivoire à La Haye en vue de procéder à son enrôlement. M. Blé Goudé tient à saluer l'accueil empreint de courtoisie et de convivialité à l'ivoirienne dont ont fait preuve les autorités consulaires et le personnel de l'ambassade, affirme Maître Dric Laver Kouadio.
Bientôt, la chirurgie cardiaque à corps ouvert sera pratiquée au Bénin. Cette forme d'intervention n'avait encore jamais été réalisée au Bénin avant la première mission médicale française conduite par Mathieu Debachet, chirurgien cardiovasculaire. C'est un premier essai qui devrait être suivi d'autres missions pour réaliser le transfert de technologie qui doit conduire à terme à ce que les patients béninois soient opérés au maximum sur le territoire béninois par des équipes béninoises. Nous, on travaille énormément sur tout ce qui est chirurgie thoracique, vasculaire, corps fermé et maintenant corps ouvert parce qu'il fallait beaucoup de matériel et actuellement on est en train de mettre en place toute la structure nécessaire pour pouvoir prendre en charge ces malades-là sur place, a déclaré Wilfred Gangi, chirurgien cardiovasculaire à Cotonou.
Face aux différents défis économiques posés par la situation sanitaire, les radiodiffuseurs publics des nations africaines comptent plus que jamais sur les redevances TV des citoyens pour continuer d'assurer le financement de leurs activités. Au Zimbabwe, le radiodiffuseur public, la Zimbabwe Broadcasting Corporation, vient de lancer une plateforme qui permet à la population de payer sa redevance TV sans se déplacer. La ministre de l'Information, de la Publicité et de la Radiodiffusion, Monica Moussvangva, s'est réjouie de l'initiative qui convient parfaitement au contexte sanitaire actuel. Pour le Zimbabwe, la lutte contre la COVID-19 a été coûteuse. Des personnes sont mortes, des entreprises ont perdu de l'argent et les institutions sociales ont été désorganisées, a-t-elle contextualisé. Pour faire face à la situation, la ZBC a commencé à migrer ses opérations commerciales vers des plateformes en ligne pour faciliter la continuité des services et des paiements. Avec la nouvelle plateforme, les téléspectateurs n'ont qu'à se rendre sur les sites internet de la ZBC et à payer, seulement, il faut encore convaincre les citoyens de la verser.